À vous, Claude Askolovitch, on parle d'un adieu.
L'adieu d'un journal qui fut une espérance en Haute-Vienne, en Creuse, en Corrèze. Adieu au lecteur, dit la une de l'Écho, né il y a 75 ans à la Libération, qui avait été Valmy dans la Résistance. Ce journal était dans le Limousin, le quotidien communiste. Tirant sa révérence, il reproduit des unes historiques. En 2005, l'Écho disait adieu à Georges Guingouin, un instituteur communiste dont les maquisards avaient libéré Limoges. 14 ans après, l'Écho meurt à son tour de faiblesse économique. Mais dans les pages de ce vilain et digne petit canard, déborde des lecteurs, des correspondants, des syndicalistes font résonner des colères et une culture de lutte, de grève, d'infos locales et aussi d'articles en patois qui faisaient rire gamin le journaliste Jackie Chouli qui se demande ce matin si les salauds ont gagné puisque son journal disparaît. À Paris, l'humanité communiste convalescente se raccroche à une figure tutélaire, le cinéaste Costa Gavras, dont le film Adults in the Room raconte la lutte du ministre grec Yanis Varoufakis contre les dirigeants européens qui, pour sauver la Grèce, voulaient lui imposer une rigueur insoutenable. Costa Gavras, dans La Voix du Nord, assure qu'il n'a pas voulu montrer le bon Varoufakis contre les méchants. Il est quand même dans l'UMA, ce n'est pas rien ses retrouvailles, car cet homme fut celui qui dénonçait le fascisme en Grèce dans Z, mais aussi le stalinisme dans L'Aveu, quand le communisme à l'Est était le nom de l'oppression. Il dit, Costa Gavras, à la une de l'UMA, que dans le monde entier, les peuples reprennent le flambeau des luttes. Naomi Klein est sans doute du même monde que nos journaux rouges ou que François Ruffin que nous avons reçu à l'instant, mais elle est d'une autre dimension, venue d'Amérique et d'audience planétaire. L'essayiste canadienne, bardée de best-sellers, publie aujourd'hui en français « Plan B pour la planète », un livre manifeste pour conjurer la barbarie climatique, un monde de frontières où les pays riches repoussent et rejettent les victimes du réchauffement. Elle est sur le site du Monde, mais aussi celui de Libération et sur celui de Reporter depuis septembre. Elle se défend, dit-elle, de prédire l'apocalypse. Elle se bat. Naomi Klein parle de demain, mais souvent la nostalgie est notre refuge, c'est une forme de vie. Les Échos me racontent des cornichons qui ont survécu au communisme. Les cornichons bocal Spreewald Rabe de Lübbenau à l'est de l'Allemagne. Du temps de la RDA, cette entreprise était privée. Trop petite, ce fut sa chance pour échapper à la destruction des industries de l'Est. Mais la famille Belach, ses propriétaires, a dû apprendre une nouvelle jungle. Du jour au lendemain, Spreewald Rabe a dû changer sa recette pour mettre du sucre, parce qu'en Allemagne de l'Ouest, on préférait le cornichon doux. Il a fallu recruter des ouvriers en Pologne. Tous les jeunes gars étaient partis à l'Ouest. Il a fallu payer en liquide illégalement des fournisseurs. Il a fallu découvrir qu'au capitalisme paradisiaque, les gens parfois n'étaient pas honnêtes et ne réglaient pas les cornichons qu'on leur avait livrés. Mais Spreewald Rabe a survécu et, savez-vous, a même lancé une nouvelle gamme de cornichons dans des bocaux à nouveau estampillés des armoiries de feu l'Allemagne communisme. Blé, compas et marteau, des cornichons moins sucrés, une recette de RDA, ça marche.
On parle de films ce matin.
Parce que les films, Costa Gavras le sait, François Ruffin également, sont la suite de la politique. Ils sont aussi les films d'histoire. Dans une petite semaine sera organisé ce qui aurait dû être le premier festival de Cannes, qui fut annulé en 1939 pour cause de guerre. Ce sera Orléans, en hommage à Jean Zay, ministre de la Culture, qui avait voulu ce festival. C'est dans la République du Centre et dans Télérama. Que vaut Tractoriste, la comédie kolkhozienne que Staline avait préférée à Alexandre Nevsky pour représenter l'URSS? Le cinéma peut aussi réparer. Lundi, me dit l'opinion, à l'école militaire, là où le capitaine Dreyfus, officier juif accusé à tort d'espionnage, fut dégradé en 1895, on a projeté le film que Roman Polanski consacre à une affaire que l'armée a mis du temps à admettre. Le chef d'état-major, le général Lecointre, était à la projection. Un geste de panache, dit l'opinion. Vieilles blessures et blessures d'aujourd'hui. Dans Le Parisien, j'apprends que 40% des musulmans de ce pays ont déjà rencontré le racisme. C'est un sondage commandé par la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. 28% des sondés musulmans ont déjà fait l'expérience de discrimination lors d'un contrôle des forces de l'ordre. Nous vivons, lis-je, au temps d'un racisme pur et simple, mais on vit pourtant. Dans l'Est républicain, je découvre ainsi une musulmane heureuse et pourtant ostentatoire. Nouzargi, qui ouvre à Toul une boutique, Mona Palace, dans le quartier Croix de Metz, où elle propose vêtements, produits de beauté, miel marocain, et des voiles par dizaines. Pour tous les âges et toutes les occasions, il y avait une demande. Dans une autre vie, elle travaillait, cette femme, à la permanence de l'aide de Nadine Morano, avec qui elle s'entendait très bien. Elle savait que je portais le voile en dehors du travail, ça ne l'a jamais dérangée.
Et une centrale électrique, pour finir, Claude.
Qui, en Loire-Atlantique, se demande si elle aura une vie dans la transition énergétique. Elle fonctionne au charbon et doit s'arrêter, mais aurait besoin d'une dérogation, me dit Presse Océan, pour se transformer et passer à l'écombuste, un combustible propre, mais qui a besoin d'un tout petit peu de charbon. Peut-on être souple? Les ouvriers espèrent l'État. à Toulouse. C'est dans la Dépêche qui en fait sa une indignée. L'État est venu au secours du consortium chinois Casil, premier actionnaire de l'aéroport qui, hier en Assemblée Générale, s'est fait voter des dividendes correspondant exactement aux bénéfices de la plateforme. Les collectivités locales étaient contre. L'État a voté avec les Chinois. Et si je lis bien, c'était une rançon, ce qu'il fallait leur donner pour qu'ils consentent à vendre à Eiffage, repreneur pressenti. Belle affaire. Dans le 1, enfin, on me parle des paysans qu'il faut sauver, et j'y trouve comme chaque semaine un poème, celui-là signé Louis Chevalier. Il est de circonstance quand nous doutons de la planète et tout nous file entre les doigts. Qui possède quoi dans ses enclos? À qui est-ce la montagne investie jusqu'au sommet, les murs patients, les blés jaunes, les amandiers? À qui saura retenir entre ses mains les murs qui tombent, la fleur immuable, les héritages démembrés, les puits taris? Des familles éteintes, qui dira les noms sur la mousse des tombes oubliées? Et le vent, les rochers et la mort, à qui est-ce?
Merci Claude pour la revue de presse.